VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. Nous ouvrons une demi-heure d'information en continu. Bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kaboun, président intérimaire de l'UDPS, le parti au pouvoir, a été destitué du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Des députés en sont même venus aux mains au Parlement avant le vote. La présidente de l'Assemblée, Jeanine Mabunda, a suspendu la séance en début de soirée, envoyant une bonne vingtaine de députés qui s'empoignaient violemment au pied de son perchoir. Madame Mabunda a mis en cause les élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et de PES, le parti du président de la République, Félix Tshisekedi, minoritaire au Parlement. Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été proclamé lundi large vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Ce résultat a été immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé lundi à Abidjan l'opération inondation électorale pour inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes en vue des prochaines élections présidentielles et législatives dans 5 mois. Le FPI Pro-Gbagbo poursuit son changement de stratégie annoncé fin 2019 après avoir boycotté les élections depuis 2011 et la chute de Laurent Gbagbo, puis son transfert à la Cour pénale internationale, la CPI. Coup de tonnerre dans l'affaire Adesina à la Banque africaine de développement, les États-Unis ont demandé une enquête indépendante au sujet d'accusations de prévarication contre le président de l'institution financière africaine. Cette initiative remet en cause sa réélection en août prochain pour un nouveau mandat. Le gouvernement malgache a annoncé l'envoi de renforts militaires et de médecins dans la ville de Thomasina, dans l'est du pays, après une forte augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la deuxième agglomération du pays. Le gouvernement a tenu dimanche, dans la capitale Antananarive, un conseil des ministres spécial consacré à la situation à Thomasina. Madagascar, pays de l'océan Indien, a enregistré jusqu'à présent 527 cas de coronavirus, dont 2 décès localisés à Thomasina. Depuis jeudi, 122 nouveaux cas ont été officiellement confirmés. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec des partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. Cette décision prise samedi fait suite à la publication d'une étude la veille dans une revue médicale jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le COVID-19, a indiqué le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dans le reste du monde, c'est le retour sur les plages en Espagne et aux États-Unis, réouverture des discothèques en Islande et levée de l'état d'urgence au Japon. Le déconfinement se poursuit à travers le monde où le coronavirus a fait plus de 344 000 morts et poursuit sa progression, notamment en Amérique latine. Le Royaume-Uni prévoit de rouvrir les commerces non essentiels au 15 juin, a annoncé lundi le premier ministre britannique Boris Johnson, qui espère tourner la page de la polémique autour de son conseiller accusé d'avoir enfreint le confinement instauré contre le coronavirus. À Montréal, l'épicentre de la pandémie de coronavirus au Canada, le centre-ville a repris ses couleurs lundi avec la réouverture des magasins de la célèbre rue Sainte-Catherine après 2 mois de confinement, repoussé à 2 reprises, la réouverture des magasins ayant directement accès sur la principale artère commerciale de la ville a attiré bien de consommateurs pressés de renouer avec le shopping, mais ce n'était pas non plus l'affluence des grands jours. Afghanistan, le cessez-le-feu surprise de 3 jours décrété par les talibans à l'occasion de l'Eid al-Fitr était toujours globalement respecté lundi, et cela pour son 2e jour. Le président Ashraf Ghani s'est engagé dimanche à faire libérer quelques 2000 prisonniers insurgés. Ici aux États-Unis, l'ancien vice-président américain Joe Biden, probable candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain, a effectué lundi sa première apparition en public depuis qu'il s'est placé à l'isolement il y a dix semaines en raison de l'épidémie de coronavirus. Le président Donald Trump, pour sa part, a quitté à plusieurs reprises l'enceinte de la Maison-Blanche ces dernières semaines pour se rendre dans des états clés du scrutin de novembre dans le Michigan, en Pennsylvanie et en Arizona. Le président républicain a également joué au golf ce week-end pour la première fois depuis qu'il a déclaré un état d'urgence sanitaire il y a 2 mois. La suite de cette session d'information dans un instant avec Idrissa Seydou Diarra.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Merci Jean-Roger Bion. En votre compagnie, Idrissa Sidoulia pour la suite de nos informations. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, parti au pouvoir, a été destitué du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les députés de son parti en étaient venus aux mains pour tenter d'empêcher l'examen de la pétition introduite contre lui. Le point avec Eddy Isango.
280 députés ont voté pour la destitution de M. Kabound sur les 315 qui ont pris part à la séance. Un nombre réduit sur les 500 membres de l'Assemblée nationale pour respecter la distanciation physique dictée par la pandémie de Covid-19. 17 ont voté contre et 9 se sont abstenus. Échanges des coups et bagarres ont précédé les votes de destitution, mais la séance suspendue a repris et les votes ont eu lieu. À l'origine de la destitution de Kabound, une pétition initié par un député du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC Jean-Jacques Mamba, que la Cour de cassation a placé en résidence surveillée samedi. Un autre député a accusé l'auteur de la pétition d'avoir apposé en son nom une signature sur la pétition sans son consentement. La détention du député a mis en colère ses autres collègues qui dénoncent une violation de son immunité et de la Constitution. La majorité s'est prononcée à l'audience d'hier pour sa libération immédiate et l'arrêt des poursuites.
Au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a été proclamé hier grand vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Un résultat immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Les détails avec Jacques Aristide.
Évariste Ndayishimiye a remporté 68,72% des voix contre 24,19% à Agathon Rwasa, qui arrive deuxième sur sept candidats. Le scrutin est crédité d'un taux de participation de 87,71% d'après la commission électorale du pays. Le Conseil national pour la liberté a boycotté l'annonce des résultats. Le parti du candidat Rwasa dénonce ce qu'il appelle une mascarade électorale, un scrutin non crédible, et compte saisir la Cour constitutionnelle. Selon le porte-parole du CNL, Terence Manirambona, le parti prépare un dossier de plainte, va conformer à la loi et déposera un recours ce mardi ou demain mercredi pour que la Cour se prononce ce qu'il qualifie de fraude massive. Un diplomate en poste au Burundi a émis de forts doutes sur les résultats. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, appelle ses militants à la retenue et à ne pas faire de provocation. Le parti nous indiquera le moment venu, le jour où on fêtera notre victoire, dit un cadre du CNDD-FDD. En cas de recours infructueux, le général Ndayishimiye, 52 ans, devra être investi en août prochain pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois à la fin du mandat du président sortant, Pierre Nkurunziza. M. Ndayishimiye a promis de faire du rétablissement économique du pays sa priorité.
Au Nigeria, l'armée a mené une série de raids aériens contre des groupes armés qui terrorisent le nord-ouest du pays, ont rapporté lundi des sources locales et l'armée, qui assure avoir tué des centaines de bandits. Les détails avec Nani Talani.
Selon des habitants des états de Katsina et Zamfara, des avions militaires de l'armée nigériane ont mené des bombardements au cours de ces derniers jours visant les camps des groupes armés communément appelés bandits dans cette région du Nigeria. L'armée affirme avoir tué plus de 300 d'entre eux depuis jeudi dans ses opérations. Elle dit aussi avoir neutralisé près de 200 bandits armés lors de plusieurs frappes aériennes dans les camps des forêts de Dibia et de Zurmi. Des chefs traditionnels locaux ont confirmé à l'AFP que des raids aériens ont eu lieu depuis ces derniers jours, mais n'ont pas pu confirmer le nombre de victimes. Le nord-ouest du Nigeria est le foyer de groupes criminels qui terrorisent les populations depuis de nombreuses années, commettent des attaques contre les civils pour voler le bétail ou les terres et mènent des kidnappings contre rançon. Les autorités nigérianes ont tenté de mener dans certains états des pourparlers de paix entre les civils organisés en milices d'autodéfense et les bandits, mais jusqu'à présent, aucune stratégie n'a réussi à stopper la spirale des violences.
Présidentielle américaine de novembre 2020, le président Donald Trump a menacé hier de déplacer la convention républicaine prévue fin août en Caroline du Nord. De son côté, son rival démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a fait sa première sortie publique depuis le 25 mars. Eric Manirakiza.
Le président Trump exige que le gouverneur démocrate Roy Cooper lève l'interdiction des grands rassemblements édictés en raison du coronavirus. Des milliers de républicains enthousiastes s'organisent pour se rendre en Caroline du Nord en août. Le gouverneur doit immédiatement leur dire si oui ou non le lieu de la convention pourra être utilisé à pleine capacité, a souligné le chef de l'exécutif américain dans une série de tweets. Sinon, M. Trump menace de trouver un autre site pour la convention républicaine. Pour leur part, les démocrates ont évoqué la possibilité d'organiser leur convention également prévu en août, en ligne ou avec un autre format inédit pour investir leur candidat Joe Biden. Alors que son adversaire Donald Trump est très présent dans l'actualité et sort régulièrement de la Maison-Blanche, l'ancien vice-président de Barack Obama a fait hier sa première sortie publique en plus de deux mois avec un masque pour une brève cérémonie de dépôt de gerbes sur un monument aux anciens combattants américains près de son domicile, lors du Memorial Day.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque centrale des Swatini, ex-Swaziland, abaisse son principal taux débiteur de 50 points de base à 4% en réponse à la pandémie du coronavirus. Ces décisions de taux sont également alignées sur celles de l'Afrique du Sud, qui a aussi réduit son principal taux débiteur de 50 points de base jeudi. La monnaie locale des Swatini est rattachée au rang sud-africain. Par ailleurs, la banque estime qu'à cause du Covid-19, l'économie du pays pourrait reculer de 6,16% cette année. Le PIB de la Tunisie a baissé de 1,7% en glissement annuel au premier trimestre de l'année en cours, contre une croissance de 1,1% au même trimestre l'an dernier, a déclaré l'Institut national de la statistique. Les autorités tunisiennes s'attendent à ce que l'économie du pays se contracte de 4,3% cette année, ce qui serait sa contraction la plus forte depuis plus de 60 ans. Le besoin de financement extérieur de la Tunisie atteindra environ 5 milliards d'euros en 2020 contre 2,5 milliards d'euros prévus auparavant. Pour terminer, la demande des États-Unis à la BAD d'ordonner une enquête indépendante au sujet d'accusations de prévarication contre son président Akinwumi Adesina fragilise la réélection attendue de ce dernier, estiment les analystes. Avec cette lettre, les États-Unis actent leur volonté de faire partir Adesina, seul candidat pour un nouveau mandat de 5 ans, analyse un économiste ivoirien. M. Adesina a toutefois déjà reçu le soutien de l'Union africaine et de la CEDEAO pour sa réélection à la tête de la BAD.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Cyril Dié, est de retour au FC Sion. 7 ans après son départ du club suisse pour un bail de 2 ans, le contrat du milieu de terrain ivoirien avec Neuchâtel Sarmas arrive à terme dans quelques semaines. Je suis très heureux de revenir au FC Sion, un club qui compte énormément pour moi puisque c'est celui qui m'a permis de découvrir l'Europe. J'aime son public, j'aime tout ce que ce club représente, que ce soit pour moi ou dans le football suisse, a réagi Seredier après sa signature. Triste nouvelle en Italie, l'AS Rome a annoncé hier le décès de Joseph Boissé Perfection, joueur camerounais qui a succombé à une crise cardiaque. Arrivé à 16 ans en Italie, Boissé Perfection est resté au centre de formation de l'AS Rome entre 2016 et 2018, où il évoluait avec l'équipe réserve. Il était âgé de 21 ans. En Allemagne, pour la première fois de l'histoire, un classiquaire entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se jouera ce soir à huis clos, en ouverture de la 28e journée de Bundesliga, la 3e depuis la reprise du football allemand post-coronavirus, avec 4 points d'avance sur Dortmund. Le Bayern, 61 unités, est assuré d'être toujours leader à l'issue de la rencontre. Derrière les deux autres poids lourds, 3 équipes se disputent âprement les 2 autres places qualificatives pour la Ligue des Champions. Leipzig qui reçoit le Hertha Berlin, Leverkusen qui accueille Wolfsburg et Mönchengladbach en déplacement à Brême. Derrière, le tout est fait. Le sixième Wolfsburg étant à 13 longueurs derrière Mönchengladbach. En Angleterre, les deux premières divisions du championnat de football féminin ont été définitivement arrêtées selon un communiqué de la Fédération anglaise de football qui ne donne pas de précision sur le classement final. Manchester City était en tête du championnat avant son arrêt en mars, suivi de Chelsea.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe, allié principal et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi et consorts, a repris hier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa pour détournement de deniers publics. Les témoins ont été appelés pour la première audience fixée au 3 juin. Mais le débat reste focalisé sur la convocation ou non de l'épouse de M. Kamerhe comme témoin ou renseignant. Eddie Isango a joint à Kinshasa un avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Maître Willy Wenga.
Il a s'agit beaucoup plus de questions relatives aux pièces du dossier, sur les différents contrats signés, les différentes autorisations sollicitées, la différente procédure suivie pour le décaissement, les différents marchés, exportations, questions de licence posées à un des prévenus, M. Jamal, et aussi à la confrontation de ces pièces avec les parties prévenues. On a assisté à un procès où la partie civile République du Congo a été très active. À un certain moment, on a cru que la partie civile était le ministère public. Je savais que dans un procès pénal, la partie civile et le ministère public faisaient un dans la recherche de la condamnation de la partie prévenue à des pénalités et voire à des dommages. Nous avons tiré comme leçon que si aujourd'hui l'instruction a tourné beaucoup plus autour de pièces, la prochaine audience tournera beaucoup plus autour des témoins.
Justement, les témoins ont été convoqués. Pensez-vous que la présence des témoins pourra être déterminante à la suite du procès?
Les deux parties ont appelé à des témoins à charge et à décharge. Vous savez que dans un procès pénal, les témoins sont très importants. Dès lors que les parties prévenues ont eu à nier certains faits, les parties prévenues ont eu à considérer certains faits comme étant inventés, justifiant leur innocence. Les parties prévenues ont eu à évoquer certaines personnalités comme étant ceux-là qui devraient venir déposer pour le décharger. Et il en est de même de la partie ministère public et la partie civile qui considèrent certaines personnalités aussi comme détenant des informations ou devant venir attester certaines pièces niées par la partie prévenue.
Mais la partie prévenue, Kamerhe, récuse les témoins ou ne veut pas que Mme Hamida, qui est l'épouse de Vital Kamerhe, vienne témoigner.
La partie Kamerhe a eu à récuser que son épouse vienne témoigner, invoquant la question de la dignité au motif que les faits pour lesquels l'épouse suivi n'a aucune relation avec son épouse et qui est déjà arrêté, prêt à mourir, il n'est pas prêt à céder pour sa dignité. Mais toutes ces questions-là posées devant le juge, ce sont des questions que seul le juge doit apprécier et tout reste à attendre l'audience du 3 juin pour vérifier si le greffe du tribunal de grande instance ou le juicier de justice, parce qu'en RDC nous en avons maintenant dans le ressort de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, le juicier de justice est agréé, si l'audience de M. Kamerhe pour notifier son épouse au point de comparaître, et c'est à la comparution qu'on saura si elle est là, elle comparaîtra comme témoin ou comme renseignant. Mais dans un premier temps, la question de comparaître ou non d'une personne devant la justice reste à l'appréciation du juge.
Et M. Jamal, qui est le propriétaire de la compagnie Samibo, a reconnu avoir perçu de l'argent, mais seul. Et on a vu M. Kamerhe démontrer qu'il a écrit, mais au nom du président de la République, toutes ses lettres.
Lorsqu'une partie qu'on prévenait invoque un moyen, il revient à l'autre partie de se défendre et que c'est au regard de réponses qu'on donne à des moyens soulevés par une partie au procès ou par un comprévenu que le tribunal parvient à considérer que de certaines incohérences ou de certaines incompréhensions ou même de certaines contradictions où se trouverait la vérité et où se trouverait le mensonge pour qu'il tire au clair par un jugement.
Maître Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe.
Sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Lutte contre le Covid-19 au Cameroun, le gouvernement continue de s'opposer à la distribution des dons aux populations par le canal du projet Survie Cameroun, Survival Initiative de l'opposant Maurice Kamtou. Des bénévoles du dit projet ont été interpellés ce week-end dans la ville de Saint-Mélima, dans le sud du pays, région natale du président Paul Biya. Il leur est reproché d'avoir procédé à la distribution de masques barrières et de gel hydroalcoolique. De Yaoundé, précision de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Ces dons sont issus d'une collecte de fonds du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti dirigé par Maurice Kamtou, qui veut, citation, porter secours à ses compatriotes confrontés au Covid-19, fin de citation. Selon le décompte de Christian Pinda Ekoka, président du comité de management de Survie Cameroun, Survival Initiative, 11 bénévoles ont déjà été interpellés en distribuant des cache-nez et gel hydroalcoolique aux populations. Sosten Medaliport, secrétaire national à la communication du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Maurice Kamtou a eu l'idée de cela spontanément parce que le coronavirus n'attend pas, il frappe directement. Il nous semble que c'est une œuvre de salut public, c'est une œuvre humanitaire, c'est un crime contre l'humanité, d'empêcher à des bénévoles humanitaires de protéger les populations vulnérables.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, est opposé au projet initié par Maurice Kamtou, qu'il qualifie d'illégal.
J'appuie l'élection pour interdire, sans arrêt interdit, et ils ne vont pas prospérer dans le sens des activités illégales tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis au mandat.
Au cours d'un interrogatoire le 14 mai, à la direction de la police judiciaire de Yaoundé, des infractions de suspicion de blanchiment de capitaux, escroquerie du peuple camerounais et financement de la résistance aux institutions de la République ont été retenus contre Alain Fogué, trésorier national du MRC.
Mes chers compatriotes,
dans son discours à la Nation le 19 mai, le président Paul Biya n'a pas loupé à demi-mot le projet de Maurice Kamtou.
Dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, le gouvernement s'emploiera à poursuivre la lutte contre toute instrumentalisation ou exploitation politique, économique ou sociale de cette tragédie.
L'opinion est divisée au Cameroun sur cette attitude des pouvoirs publics à l'endroit du projet Survie Cameroun, Survival Initiative de Maurice Kamtou.
C'est un projet. Même s'il était un projet du MRC, le RDPC en a eu une vingtaine. Personne ne les a harcelés. Ils en ont fait la propagande officielle dans tous les médias officiels et tous les médias privés.
Je voudrais quand même questionner cette stratégie permanente de ce parti politique à n'aller que vers de l'affrontement contre les autorités publiques, contre les autorités et les fonctionnaires du commandement territorial.
Six bénévoles du MRC interpellés pendant la distribution des dons pour se protéger du Covid-19 ont été libérés sous garant après plusieurs jours de détention. Deux vont comparaître devant le procureur de la République ce mardi à Yaoundé et trois sont encore aux arrêts à Saint-Mélima dans la région du Sud. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Gabon, la détresse des entreprises privées impactées par la crise sanitaire du Covid-19 se fait entendre. Beaucoup commencent à désespérer de l'aide de l'État. Il leur avait été promis un fonds d'urgence pour les accompagner sur le court terme. Mais les mécanismes de ce financement demeurent une nébuleuse pour beaucoup de PME. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Les entreprises éligibles au fonds d'urgence créé par l'exécutif gabonais sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 3 milliards de francs CFA et employant moins de 200 personnes. C'est le cas de la structure de Stéphane Guéma-Guéma, dont les activités sont axées sur le management environnemental. Le jeune entrepreneur gabonais n'a pas de mots justes pour dénoncer une aide promise, dénuée de toute concertation en amont.
Rien n'a été étudié. On a pris une décision sans penser aux conséquences. Ça se voit partout d'ailleurs, même dans le domaine social, avec ce qu'on appelle l'équité alimentaire et tout. La catastrophe qu'on voit dans les quartiers par rapport à la distribution de l'équité alimentaire, c'est la même catastrophe qui se retrouve au niveau du monde entrepreneurial. On est complètement à terre.
Même cri de détresse pour la Chambre nationale du bâtiment, travaux publics et métiers, qui est une organisation patronale regroupant en son sein près d'une centaine d'entreprises, dont Emery Bina est le président.
Rien de concret ne nous a été proposé par les relais commis à cet effet. Lors de son passage devant la représentation nationale le jeudi 7 mai 2020, M. le Premier ministre chef du gouvernement annonçait la non-effectivité des fonds relatifs à l'aide aux entreprises promises par votre autorité, faisant plutôt allusion à la mise en place auprès des banques des mécanismes d'octroi de crédits dont nous ne connaissons pas certains contours et à des conditions inappropriées pour bon nombre d'entreprises de notre corporation.
Avec l'appui des banques commerciales regroupées au sein de l'association professionnelle des établissements de crédit, le gouvernement a mis en place les mécanismes d'accès au crédit pour soutenir le secteur privé impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Jean-Robert Obion-Obion, responsable d'établissement de crédit.
Le gouvernement est en train d'alléger progressivement les activités qui vont reprendre, ceux qui ont des bons de commande, ce que nous allons faire en sorte qu'il y ait des produits adaptés selon le besoin spécifique de chaque agent économique, quelle que soit sa taille. Justement, la mission de la microfinance, c'est de ne pas exclure un agent économique sur la base de la taille. C'est d'accompagner tout le monde à son niveau, selon ses capacités financières, selon son activité, selon sa réalité économique.
250 milliards de francs CFA, soit 410 millions de dollars, ont été débloqués par le gouvernement pour financer des mesures économiques et sociales exceptionnelles pendant cette période d'inactivité de plusieurs entreprises du secteur privé. Libreville, Ismaël Obionze, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À quelque chose, malheur et bon, semblent se dire les cyclistes de New York, où la petite reine connaît un véritable boom depuis l'instauration de mesures contre le coronavirus. Ils sont des milliers à garer leurs véhicules pour pédaler dans les rues new-yorkaises, connues pour leurs embouteillages monstres. Reportage d'Evgeny Maslov, repris ici par Lionel Gahima.
Avant la pandémie du nouveau coronavirus, les cyclistes avaient du mal à se frayer un chemin à New York aux côtés des taxis, bus, limousines et voitures particulières. Depuis le confinement, des milliers de vélos envahissent les grandes artères de Manhattan, suscitant du coup une hausse de la demande de ce moyen de transport. Hugo Constama dirige la compagnie Bike Express.
Nous avons beaucoup de clients. Nous travaillons dans différents ateliers. Nous voyons de nouveaux visages, des gens allant de plus en plus au travail à vélo. Ils sortent leur bicyclette de leur sous-sol. C'est une bonne chose. Moins de trafic, moins de trains. Distanciation sociale oblige.
Les vélos présentent beaucoup d'avantages, à commencer par le coût. Il n'y a pas de problème pour parquer son vélo à New York et la ville compte de nombreux ateliers de réparation de bicyclettes. Ceux qui empruntent le métro sont encouragés par voie d'affiche à observer la distanciation sociale. Tout cela est rassurant, explique Noah, un habitant de New York.
Je marche tout simplement, je ne prends plus le métro, je marche dans mon quartier. J'ai emprunté la 91e rue pour venir.
Le récent boom du vélo n'est pas né en un jour, explique Fred Hidalgo de la compagnie Liberty Cycles.
Tout le monde avait peur, il restait à l'intérieur. C'est en fin avril que les choses ont commencé à évoluer. Les gens veulent éviter les transports en commun, il est plus sûr d'aller à vélo. Les gyms sont fermés, si bien que le vélo reste le seul moyen d'exercice physique.
Pour des médecins, infirmières et d'autres travailleurs en ligne de front de la lutte contre le coronavirus, la bicyclette est un moyen peu coûteux de se rendre au travail. Faridun Mokotodorov est propriétaire de Fancy Apple Store, une entreprise de location de vélos.
Nous avons quelques infirmiers venus d'autres États qui vont à vélo. C'est formidable. Nous leur faisons des rabais, cela les aide et nous aide également.
Si cette tendance se poursuit, Manhattan pourrait ne pas complètement renouer avec les rues engorgées de véhicules d'avant la pandémie de Covid-19.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.